Donc, ce soir, nous avons la joie d'accueillir le père Michel Fédou. Donc, mon père, vous êtes prêtre jésuite, vous êtes l'auteur d'une thèse sur l'hygiène, vous enseignez au Centre Sèvres, entre autres la théologie dogmatique et la patristique, et vous êtes venu ce soir pour nous parler des pères apologètes. Donc, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir, d'autant plus que j'ai une formation de lettres classiques et je sais que c'est la spécialité de plusieurs d'entre vous. Et donc, je vais vous dire quelques mots ce soir sur ce qu'on appelle les pères apologistes, c'est-à-dire des auteurs chrétiens, des pères de l'Église, comme on dit, qui ont vécu au IIe siècle, pour l'essentiel, IIe siècle, début IIIe siècle de notre ère, et qui ont en commun d'avoir essayé de rendre compte, de rendre raison de leur foi chrétienne. Sur la feuille que vous avez sous les yeux, j'ai préparé deux recto verso, tout à fait en haut de la première feuille, j'ai rappelé une expression de la première épître de Saint-Pierre qui dit « Soyez prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, pourvu que ce soit avec douceur et respect. Soyez prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. Voilà. » Il faut réaliser que les chrétiens au IIe siècle et au IIIe siècle étaient relativement minoritaires, même très minoritaires au début, un peu moins par la suite, et à certains moments, ils étaient inquiétés, poursuivis à cause de leur foi chrétienne dans un monde sein de cet empire romain. Donc ils étaient parfois même persécutés. Et donc ils se trouvaient souvent dans cette situation dans laquelle ils devaient en quelque sorte se défendre, le mot apologia, grec, défense, de faire. Ils devaient faire un plaidoyer, au fond, leur propre foi. Et c'est pourquoi on appelait ces auteurs chrétiens les pères apologistes. Les pères de l'Église, vous savez, sont des auteurs chrétiens qui, en fait, s'étalent sur 7 ou 8 siècles. Mais on réserve cette expression pères apologistes à ces auteurs chrétiens du IIe siècle, début IIIe siècle, qui ont essayé de rendre compte, rendre raison de leur foi, qui ont essayé de justifier leur foi, à la fois face à des juifs qui n'avaient pas accepté, n'avaient pas accueilli le message de l'évangile, et aussi face à ceux qu'on appelle les païens. Voilà. Alors sur la feuille, j'ai indiqué quelques noms de ces auteurs chrétiens du IIe siècle. L'un des plus connus, c'est Saint Justin, je vais revenir sur lui. Mais il y en a d'autres, Tatien, Athénagore, Théophile d'Antioche, l'auteur inconnu d'un petit écrit qui est une vraie merveille, l'écrit Ad Diognète, vers la fin du IIe siècle ou début IIIe siècle. On pourrait encore citer Clément d'Alexandrie, donc, qui était lui surtout en Égypte, enfin en tout cas dans la ville d'Alexandrie, hein, une ville fortement hellénisée. Ou encore Tertullien en Afrique, hein, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Apologétique. Je profite de l'occasion pour vous signaler que il y a un an est paru dans la bibliothèque de la Pléiade ce volume Premiers écrits chrétiens qui a l'avantage de donner pratiquement tous les textes des pères apologistes. Alors à partir de Clément d'Alexandrie ou Irénée. On a seulement des extraits, hein, parce que ça serait trop long de tout publier dans un seul volume, mais pour les premiers, Justin, Tatien, Athénagore, on a vraiment tous leurs écrits. Alors, je voudrais, dans le temps dont nous disposons, je voudrais procéder en quatre temps. Tout d'abord, dire quelques mots sur l'itinéraire même de l'un de ces auteurs chrétiens du IIe siècle, Saint Justin. Ensuite, je voudrais rendre compte de son argumentation, l'argumentation de Justin à la fois vis-à-vis des juifs et vis-à-vis des païens, comment Justin a essayé de défendre, hein, apologie, apologia, comment il a essayé de défendre la foi qui était la sienne dans le cadre de ses débats, de ses discussions avec des juifs et avec des païens. Ensuite, Dans un troisième temps, je montrerai sur quelques points quelle a été la contribution de Saint Justin à l'intelligence de la foi, à la théologie chrétienne. Et puis, dans un dernier temps, je voudrais m'arrêter sur un autre texte majeur de cette littérature apologétique du IIe siècle, c'est ce fameux écrit Ad Urnet, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je commence donc par dire quelques mots sur l'itinéraire même de Justin. Justin était originaire d'une ville qui s'appelait Flavia Néapolis. Bon, aujourd'hui, c'est Naplouse, hein. Flavia Néapolis, on pourrait traduire Néapolis, Neuville, Villeneuve, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est la ville de Naplouse, en Palestine. Justin était né vers le début du IIe siècle. Il était païen, comme on dit aujourd'hui. Enfin, donc, il était païen, un mot un peu anachronique, hein, mais il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, hein, et il s'est converti à la foi chrétienne. Et une fois converti à la foi chrétienne, il a voulu faire l'apologie de cette foi qui était désormais la sienne. Et il est mort martyr à Rome, dans la ville de Rome. Après être converti au christianisme, il était philosophe à l'origine. Alors, il a voulu, une fois converti au christianisme, il a voulu continuer à exercer, à pratiquer la philosophie, mais désormais, c'était une philosophie habitée, évidemment, par ses convictions de foi chrétienne. Et il a fondé une école de philosophie à Rome, et il est mort martyr dans cette ville de Rome aux alentours de 165, on est en plein deuxième siècle. Alors, dans l'une de ses œuvres, dans le prologue de l'une de ses œuvres, Justin nous parle de lui-même, il nous parle de son propre itinéraire. Et il explique qu'il a commencé par fréquenter plusieurs philosophes, il était à la recherche de la vérité, et après avoir été spécialement marqué par un philosophe platonicien, disciple de Platon, Justin s'est retiré dans un lieu tranquille, près de la mer, et là, il tombe sur un vieil homme avec qui il engage la conversation. Et ce vieil homme lui parle, entre autres, des prophètes. Donc, Justin ignorait complètement cela, mais ce vieil homme, qui était chrétien, lui parle de ce qu'on lit dans la Bible, les prophètes en particulier, les textes des prophètes. Et Justin, à ce moment-là, dit ceci, vous avez le texte sous les yeux, « Après m'avoir tenu ces propos, et beaucoup d'autres encore, qu'il n'est pas opportun de rapporter maintenant, il s'en alla en me demandant de les approfondir. Et je ne l'ai plus revu. Quant à moi, un feu s'alluma subitement dans mon âme. Et je fus pris d'amour pour les prophètes et pour ces hommes qui sont les amis du Christ. Méditant ces propos en moi-même, je trouvais que c'était là l'unique philosophie qui soit sûre et profitable. Voilà comment et pourquoi je suis devenu philosophe. Et je voudrais que tous aient les mêmes dispositions que moi et ne se détachent pas des paroles du Sauveur. Si donc, toi aussi, tu as souci de toi, que tu prétends au salut et que tu aies foi en Dieu, puisqu'à cela tu n'es pas étranger, il t'est possible, en reconnaissant le Christ de Dieu et en accédant à la perfection, de connaître le bonheur. » Alors, c'est un très beau texte, hein, parce qu'on voit ce qui a joué dans cet événement de conversion pour le païen Justin. C'est d'abord quand même la rencontre de quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un sur sa route, hein, ce vieil homme chrétien qui lui a parlé des prophètes, de la Bible, etc. Mais ça n'a pas suffi. Pour qu'il devienne chrétien, il a fallu vraiment quelque chose venant d'en haut. Hein, il dit « Un feu subitement s'alluma dans mon âme ». Il était touché par la grâce, il était touché par le don de Dieu, et il a reconnu que, comme il dit, eh bien, cette vérité transmise par la Bible, c'était l'unique, c'était la vraie philosophie. Voilà. Donc on a ici le témoignage d'un bel itinéraire de conversion. Or, une fois converti à la foi chrétienne, Justin a eu à cœur de se justifier, de justifier cette foi chrétienne, à la fois dans le cadre de certaines discussions avec des juifs de son époque et dans le cadre de discussions avec des païens. Alors ça me conduit au deuxième point que j'annonçais. Ce qui est tout à fait passionnant dans l'œuvre de Saint Justin au IIe siècle, c'est que nous avons deux écrits. D'une part, un écrit de Justin qui s'intitule « Dialogue avec un juif nommé Tryphon ». Et puis d'autre part, on a une autre œuvre de Justin qui s'appelle « Apologie ». Et cette seconde œuvre, elle est destinée aux païens. Donc dans la première œuvre, on voit Justin qui justifie sa foi chrétienne vis-à-vis des juifs, et dans la seconde œuvre, il justifie sa foi chrétienne vis-à-vis des païens, de ceux qui étaient davantage qui étaient marqués par les traditions religieuses issues de l'Antiquité grecque, romaine, etc. L'apologie est destinée à l'empereur, hein, rien que ça, carrément l'empereur, Marc Aurèle. Alors, je reviens sur chacune de ces deux argumentations. Tout d'abord, dans le cadre du dialogue avec les juifs, Justin, alors comment fait-il pour défendre la foi chrétienne ? Ben, il se dit, vous, les juifs, vous partagez avec nous quelque chose, à savoir les Écritures, enfin, ce que nous appelons les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, hein, pour l'essentiel, ce sont les Écritures des Juifs. Et donc Justin, le plus possible, s'appuie sur ce terrain commun de discussion entre lui et les Juifs pour argumenter, pour accréditer la foi chrétienne. Et par exemple, il relit en présence, c'est très passionnant parce que ce dialogue avec le juif Tryphon, c'est vraiment un dialogue, hein. Ça se présente comme un dialogue. C'est-à-dire on a le témoignage d'une discussion, on pense qu'il y a eu vraiment à l'arrière-plan une discussion réelle entre Justin et un juif de son temps. Alors peut-être le texte écrit par Justin est remanié quelque peu par rapport à cette conversation réelle, mais c'est un texte très très vivant. D'ailleurs à la fin, enfin, il n'y a pas de happy end, si je puis dire. C'est un vrai dialogue. Chacun reste sur ses positions, mais ils se séparent en très bons termes, le juif et le chrétien. Mais aucun ne convainc l'autre. Mais en même temps, l'écrit de Justin nous permet d'avoir connaissance des arguments qu'échangeaient les juifs et les chrétiens à cette époque. Et donc, par exemple, Justin argumente à partir d'un épisode bien connu du livre de la Genèse. Vous savez, trois mystérieux personnages qui se présentent à Abraham sous le chêne de Mambré, chapitre 18 du livre de la Genèse. Alors, le juif, Tryphon, dit, voilà, il faut comprendre, ce sont trois messagers, trois anges qui ont été envoyés par Dieu auprès d'Abraham. Voilà. Et Justin dit, non, il y a peut-être un ange à gauche et puis un ange à droite, mais celui qui est au milieu, c'est la présence déjà, préfiguration de Dieu parmi les hommes. Voilà. Alors surtout, Justin argumente à partir des psaumes et à partir des prophètes. Par exemple, il argumente à partir du psaume 21. Le psaume 21, c'est le psaume qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà. C'est le psaume, ce verset, ce début du psaume 21 est mis sur les lèvres de Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Et donc Justin dit à son interlocuteur juif, voilà, ce verset du psaume, nous croyons que par avance, il annonçait la dérédiction, la détresse de Jésus sur la croix. Alors Justin dit, non, mais c'est simplement la détresse d'un homme quoi, qui fait l'expérience d'être abandonné. Justin dit, non, ça s'applique de façon précise, à la lumière de la foi au Christ, hein, je reconnais, dit Justin, que ce verset du psaume s'applique de façon parfaite à Jésus lui-même. Autre exemple, dans le livre d'Isaïe, ce qu'on appelle le deuxième Isaïe, il y a les chants du serviteur, hein, serviteur souffrant. Qui c'est le serviteur souffrant ? Alors pour les juifs, souvent, enfin habituellement, la lecture habituelle, aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est que à travers cette figure du serviteur souffrant au livre d'Isaïe, c'est le peuple souffrant qui est symbolisé. Alors Justin argumente, il dit, mais quand même, c'est quelqu'un qui parle, c'est pas simplement, c'était pas un peuple globalement, c'est vraiment quelqu'un qui parle dans ce livre d'Isaïe. Voilà. Et Justin dit, bien, ce texte d'Isaïe, serviteur souffrant, vraiment, comme chrétien, je crois que c'est une prophétie du Christ, et plus précisément de la passion du Christ. Donc, Justin argumente le plus possible à partir des Écritures pour dire que bien, ce qui était dit dans les textes de ce que nous appelons l'Ancien Testament se trouve désormais accompli pleinement par le Christ. Mais Justin objecte tout de même, le Messie qui est annoncé par les Écritures, c'est un Messie glorieux, c'est un Messie qui doit venir dans la gloire. Or, Jésus a été crucifié, donc Jésus n'est pas le Messie. Justin répond, certes, Jésus a été crucifié, mais il reviendra. Et à cet endroit-là, Justin introduit le thème, ce qu'on appelle la seconde parousie. C'est-à-dire, il y a eu une première parousie, c'est-à-dire une première présence, une première manifestation de Jésus, lorsque justement il a vécu parmi nous, il a souffert, il est mort sur la croix. Mais il y aura une seconde parousie, une seconde manifestation du Christ dans la gloire à la fin des temps. Ce qui est déjà d'ailleurs annoncé par la résurrection pour ceux et celles qui y croient. Voilà, donc Justin défend sa foi chrétienne en argumentant surtout à partir des Écritures qu'il partage en commun, qu'il a en commun avec son interlocuteur juif. Mais d'autre part, Justin, dans la deuxième œuvre que j'évoquais, c'est-à-dire son apologie adressée à l'empereur, Justin argumente pour accréditer la foi chrétienne vis-à-vis des païens. Et c'est passionnant de voir comment lui, qui est d'origine païenne, mais qui est devenu chrétien, eh bien, une fois devenu chrétien, il revisite en quelque sorte sa tradition ancienne. On a des choses tout à fait comparables qui se passent aujourd'hui dans certains cas de conversion. Par exemple, on a des témoignages de cela, des hindous qui sont devenus chrétiens et qui ont relu certaines traditions de l'hindouisme en faisant le tri. Qu'est-ce qui, dans ces traditions de l'hindouisme, était incompatible avec le christianisme? Qu'est-ce qui, déjà, même de façon partielle ou voilée, annonçait quelque chose de la révélation chrétienne? Alors, Justin procède de cette manière. Et étant devenu chrétien, il revisite sa propre tradition. Alors, qu'est-ce qu'il découvre? Ben, il découvre que, par exemple, chez Homère, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, ou bien chez les auteurs tragiques, il y a parfois des légendes immorales, comme telles, incompatibles avec le message évangélique. Mais à côté de ça, dans sa tradition, sa culture grecque d'origine, j'ai dit qu'il était originaire de Palestine, mais il était grec par sa culture, eh bien, Justin découvre qu'en mettant dans cette tradition grecque, cette tradition culturelle qui était la sienne, eh bien, il y a eu aussi, par exemple, Socrate, la figure de Socrate. Il découvre qu'il y a eu des penseurs, des philosophes, qui ont parfois dit quelque chose de très profondément vrai et qui correspond, pour une part au moins, à ce qui est dit par le christianisme. Il opère une sorte de tri à l'intérieur de sa tradition. Et c'est très intéressant de voir en particulier comment Justin argumente par rapport à une objection qui était souvent développée à son époque par des païens, l'objection du retard de l'incarnation. Certains païens disaient, plutôt des intellectuels païens de l'époque, par exemple le philosophe Cels au IIe siècle, disait, on ne peut pas admettre votre foi à vous, chrétiens. On ne peut pas l'admettre parce que c'est tout récent, ça a un siècle. Nous, c'est beaucoup plus ancien. C'est une religion, une tradition pluriséculaire, la tradition grecque, la tradition romaine. Voilà. Alors, à ce moment-là, Justin répond, il dit, certes, Jésus est venu récemment, il y a un siècle seulement, parce que Justin, on est au deuxième siècle. Hein. Donc, Justin est seulement venu, Jésus est seulement venu il y a un siècle, c'est vrai. Mais, en réalité, le Dieu de Jésus-Christ se communiquait déjà, mystérieusement, de diverses manières, à des hommes et des femmes dans les siècles précédents de l'incarnation. Alors, Justin le dit dans un passage fameux, j'ai donné ce texte, hein, c'est en bas de la première page. Nous avons appris que le Christ est le premier-né de Dieu, et nous avons indiqué plus haut qu'il est le Logos, hein, c'est-à-dire le Verbe, le Logos, auquel participe le genre humain tout entier. Ceux qui ont vécu en conformité avec le Logos sont eux aussi chrétiens, même s'ils ont été tenus pour athées. Comme par exemple, chez les Grecs, Socrate, Héraclite et leurs semblables, et chez les barbares, c'est-à-dire les non-grecs, Abraham, Ananias, Azarias, Misaël, Élie, et quantité d'autres, dont nous renonçons ici à énumérer les œuvres ou les noms, sachant bien qu'il serait trop long de le faire. En conséquence, ceux qui ont vécu avant le Christ sans le Logos étaient à l'inverse nuisibles, ennemis du Christ et meurtriers de ceux qui conformaient leur vie au Logos. Mais les chrétiens qui ont vécu ou vivent encore en conformité avec lui sont hors d'atteinte et de la crainte et de l'inquiétude. Bon, Justin emploie une formule qui peut nous paraître quand même déconcertante. Il dit « Ceux qui ont vécu avant le Christ, mais qui, avant le Christ, ont vécu en conformité avec le Verbe de Dieu. Ceux-là sont christianoi. » Alors on pourrait dire, ben, c'est une espèce de récupération. On les qualifie de chrétiens, comme s'ils étaient chrétiens sans le savoir, dans les siècles précédents de la venue du Christ. Non, c'est pas ce que veut dire Justin. Justin veut dire simplement, bien sûr, Jésus est venu seulement il y a un siècle, mais déjà dans les siècles précédents sa venue, Dieu se communiquait mystérieusement à des hommes et à des femmes qui pouvaient découvrir quelque chose de la vérité ou qui pouvaient avoir un comportement de justice ou de sainteté. Et là, il donne comme exemple Socrate, parce que Socrate, justement, c'est celui qui avait osé, au nom même de sa conscience, récuser certaines traditions de sa cité, ou en tout cas prendre distance par rapport à certaines traditions pour être fidèle à sa conscience, à la voix intérieure qui lui parlait. Et il était allé jusqu'à connaître un procès, une forme de passion. Les premiers chrétiens ont souvent relu la destinée finale de Socrate comme une sorte de préfiguration chez les païens de la passion du Christ. Voilà. Alors, en même temps, il faut bien comprendre que de la part de Justin, il ne s'agit pas d'une ouverture naïve aux nations païennes d'avant la venue du Christ, hein, parce que la fin du texte que j'ai lu dit que bien, s'il est vrai qu'il y a des hommes comme Socrate qui ont pu avoir un comportement exemplaire, bien, il y a eu aussi, dans les siècles précédents la venue du Christ, des hommes qui ont vécu d'une manière contraire au Verbe de Dieu, d'une manière contraire au Logos de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas une ouverture naïve de la part de Justin, mais la position de Justin, c'est plutôt d'inviter, en quelque sorte, un discernement de cette tradition grecque ancienne pour faire la part entre ce qui était effectivement incompatible avec le message chrétien, un certain nombre de légendes, de mythologie, etc. Et puis ce qui, au contraire, pouvait apparaître comme des préparations évangéliques, en quelque sorte, comme des pierres d'attente par rapport à l'annonce du Christ. Voilà. Alors c'est dans ce contexte que l'apologiste Justin a développé une conception qui est assez célèbre, la conception des semences du Verbe. Voilà, des semences du Verbe. En fait, Justin, qui connaissait très très bien la philosophie grecque, a repris un thème de la philosophie stoïcienne, le thème du logos spermaticos. Pour les stoïciens, le principe du monde est disséminé dans le monde, dans l'univers, logos spermaticos. Alors, Justin reprend cette expression de la philosophie stoïcienne, mais il lui donne un sens tout à fait différent, parce que pour lui, justement, le logos spermaticos, c'est en fait, le verbe de Dieu, hein, le verbe dont saint Jean parle au début de son évangile. Hein, au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, etc. Le logos spermaticos, pour Justin, c'est le verbe de Dieu qui déjà, mystérieusement, se communiquait, se répandait parmi les nations avant même les jours de l'incarnation. Logos spermaticos. Et c'est ça qui a conduit Justin à parler de semence du Verbe. Même si Jésus est venu récemment, il y avait déjà, dans les siècles antérieurs, des semences du Verbe de Dieu. C'est une expression qui était reprise par le Concile Vatican II, l'expression des semences du Verbe. Voilà, j'ai donné ces quelques exemples, hein. Il y en aurait d'autres, pour montrer comment Justin a le souci, et on pourrait dire la même chose pour d'autres apologistes, hein, comme Athénagore ou Théophile d'Antioche. Les apologistes ont vraiment le souci de débattre, de dialoguer, de discuter à la fois avec les juifs et avec les païens pour défendre la foi chrétienne, pour montrer que la foi chrétienne a ses justifications fondamentales et qu'il est donc tout à fait possible de répondre aux objections qui lui sont adressées de part et d'autre. Alors sur ce fond, je voudrais dans un troisième temps évoquer quelques-unes des contributions majeures des pères apologistes à la théologie chrétienne au IIe siècle. Je m'appuierai là encore surtout sur Justin, qui est vraiment, je crois, une figure particulièrement intéressante de cette littérature apologétique au IIe siècle. Pour vous donner vraiment une idée de la variété et de l'importance de ces contributions des pères apologistes à la théologie chrétienne, je prends surtout trois exemples, dans des domaines très différents. Le premier exemple, c'est celui de l'éthique. C'est très intéressant de voir à quel point les pères apologistes au IIe siècle interviennent sur le terrain de la morale, sur le terrain de l'éthique. Et on comprend bien pourquoi, parce que sur un certain nombre de points, l'éthique pouvait être un terrain commun de discussion. C'est pareil pour nous aujourd'hui. On revient, des chrétiens aujourd'hui peuvent débattre avec des incroyants, avec des agnostiques qui partagent avec eux un certain nombre de valeurs. Alors, il y a aussi des domaines dans lesquels les chrétiens vont se séparer de ces agnostiques ou de ces incroyants, mais il y a un certain nombre de valeurs communes, de valeurs éthiques fondamentales, qui, de soi, peuvent être partagées à la fois par des chrétiens, par des incroyants, par des agnostiques, etc. Alors, Justin et les autres apologistes sont conscients de cela. Et donc, souvent, ils disent dans leurs écrits, mais voilà, ce que vous, à la lumière de la philosophie platonicienne ou stoïcienne, ce que vous appelez les valeurs de la justice, du bien, etc., nous le croyons aussi, ce sont des valeurs qui nous sont communes. Et en même temps, bien sûr, Justin souligne que sur un certain nombre de points, il y a des divergences de fond entre le message chrétien et certaines convictions ou certains comportements moraux qui avaient cours dans l'Empire. Les auteurs, les pères apologistes ont fait preuve d'une très grande liberté pour dénoncer des comportements immoraux, par exemple l'attitude qui consistait à exposer, à abandonner des petits-enfants peu après leur naissance ou d'autres pratiques de ce type. Les pères apologistes ont fait preuve d'une très grande liberté pour dénoncer des comportements tout à fait immoraux au regard de l'Évangile. Voilà. Donc il y a à la fois ce souci au fond de montrer qu'il y a des valeurs communes que les chrétiens et les païens peuvent partager sur le terrain éthique, et en même temps le souci de se démarquer des païens lorsque l'évangile est en cause. Voilà. Et bien sûr, Justin et d'autres apologistes mettent en avant ce qui est central du point de vue éthique au regard des chrétiens, à savoir le sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne. Voilà, voilà donc un premier domaine dans lequel les pères apologistes ont beaucoup contribué à l'intelligence de la foi sur le terrain de l'éthique. Deuxième exemple, c'est l'exemple de ce que nous appelons les sacrements. Les sacrements. Bon, au IIe siècle, on parlait grec. Hein, le grec était comme l'anglais aujourd'hui, c'est la koiné. Et donc on ne parlait pas encore de sacramentum, hein, sacrement, un mot latin. Ça, c'est Tertullien qui va utiliser pour la première fois, c'est le premier auteur chrétien qui va utiliser le mot sacramentum, Tertullien, fin 2e siècle, début 3e siècle. Bon, les auteurs chrétiens du 2e siècle, qui écrivent tous en grec, utilisent plutôt le mot mysteria, le mot grec mysteria, les mystères. Hein. Ça peut rester pour nous, hein, puisqu'on parle des saints mystères, hein, les mystères de l'Eucharistie, des saints mystères. Donc pour eux, c'est avant tout le baptême et l'Eucharistie. Et justement, Justin et les autres apologistes ont le souci, là encore, de défendre la pratique des chrétiens. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens là, quand ils se réunissent dans des souterrains comme ça, qu'est-ce qu'ils font entre eux là, à quoi, puis on dit qu'ils mangent, je ne sais pas ce qu'ils mangent, est-ce que c'est pas l'anthropophagie, du cannibalisme, enfin, il y avait des rumeurs impressionnantes qui circulaient au sujet des chrétiens. Voilà. Alors, Justin, il dit, il se défend. Ben non. Oui, c'est vrai, nous nous réunissons de temps en temps, régulièrement même. Alors, il y a des textes dans lesquels Justin présente le baptême, et puis d'autres textes dans lesquels il présente l'Eucharistie. Et c'est grâce à Justin que nous avons l'une des descriptions, peut-être la description, c'est pas bien exactement, l'une des descriptions les plus anciennes de l'Eucharistie, enfin après le Nouveau Testament bien sûr. Hein. Je vous ai donné ce texte, en fait il y a même deux descriptions de l'Eucharistie dans l'Apologie de Justin. Je vais simplement transcrire l'une des deux. Au jour qu'on appelle jour du soleil, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est le dimanche pour nous, mais bon, c'est Sonntag, hein, Sonntag en allemand, le jour du soleil. Voilà. Donc ce jour-là, que nous demeurions dans les villes ou les campagnes, nous nous rassemblons tous en un même lieu. On y donne lecture des mémoires des apôtres, c'est-à-dire des textes, des actes des apôtres, des épîtres, etc., ou des écrits des prophètes, aussi longtemps que possible. Hein. On prend le temps d'écouter la parole de Dieu. Puis, lorsque le lecteur a fini, celui qui préside, prenant la parole, nous admoneste et nous exhorte à suivre ses beaux enseignements. C'est l'homélie, si vous voulez. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons des prières. Et comme nous l'avons dit plus haut, lorsque s'achève notre prière, on apporte du pain avec du vin et de l'eau, c'est l'offertoire. Hein, et celui qui préside élève des prières pareillement et des actions de grâce autant qu'il peut, autant qu'il est en lui. Voilà. Le peuple manifeste son accord en proclamant l'Amen. Puis a lieu, pour chacun, la distribution et le partage de l'Eucharistie, c'est la communion. Hein. Et leur part est envoyée aux absents par l'intermédiaire des diacres. Il reste du pain consacré, voilà, et bien on le confie aux diacres qui vont le porter aux absents, en particulier aux malades. Ceux qui ont du bien et qui l'acceptent donnent librement, chacun selon son gré, et ce qu'on en recueille est déposé auprès du président. Ça, c'est la quête hein, qui vient ici à la fin, en quelque sorte. Mais c'est assez émouvant de trouver, c'est parmi les textes les plus anciens sur l'Eucharistie, et il y en a d'autres qu'on pourrait citer, il y a de très beaux textes sur le baptême. Enfin, troisième illustration de la contribution des pères apologistes à la théologie chrétienne, c'est bien sûr tout ce qui touche la doctrine sur Dieu. Bon là, je vais être très très rapide. Hein. Disons, pour le dire simplement en quelques mots, les chrétiens avaient en quelque sorte des difficultés sur deux fronts. D'un côté, il y avait les Juifs qui leur disaient, mais vous vous écartez du monothéisme. Nous avons appris qu'il y a un seul Dieu. Et vous, vous parlez aussi de Jésus comme Dieu. Donc vous n'êtes plus monothéiste. Alors par rapport à ça, les chrétiens, les apologistes, ont dû se dire, non, nous croyons nous aussi qu'il y a un seul Dieu. Savons, ce Dieu, eh bien ce Dieu, n'est, comme dira plus tard Hilaire de Poitiers, il est unique, mais il n'est pas solitaire. Ce Dieu qui est unique nous a envoyé son Fils dans l'esprit, pour que justement, par ce Fils, dans l'esprit, eh bien, nous puissions remonter à Dieu le Père. Voilà. Donc, les pères de l'Église commencent à élaborer ce qu'on appelle la doctrine trinitaire. Mais la doctrine trinitaire n'est pas un abandon du monothéisme. C'est une nouvelle compréhension du monothéisme à la lumière de l'Évangile, puisque Jésus, justement, Jésus a parlé de son Père, et Jésus a annoncé l'Esprit, le Paraclet. Donc ça, c'est par rapport aux Juifs. Et par rapport aux païens, alors les païens, le problème se pose différemment pour eux. Le problème pour les païens, c'est que les intellectuels païens, ils sont très marqués par Platon, par le moyen platonisme, comme on dit, au IIe siècle, et ils disent, nous considérons que Dieu est vraiment transcendant et il faut vraiment préserver sa transcendance radicale. Et donc, comme Dieu est vraiment transcendant, il faut concevoir que le monde a été créé par un Dieu inférieur et qu'il y a même une multitude, une pluralité de divinités secondaires. Voilà. Donc c'est un polythéisme, une forme de polythéisme, il y a une pluralité de Dieu. Alors, par rapport à ça, eh bien, Justin et les autres apologistes argumentent en disant « Non, ce n'est pas du polythéisme. Nous croyons en Dieu Père, Fils et Esprit, mais en partageant cette foi, nous ne revenons pas au polythéisme parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. » Donc, les apologistes, ainsi, se trouvent conduits à préciser le paradoxe de la doctrine chrétienne à propos de Dieu, qui, tout à la fois, inséparablement, est une doctrine qui assume l'héritage du monothéisme biblique et qui, en même temps, propose et apporte une nouvelle compréhension de ce monothéisme, puisque c'est un monothéisme trinitaire, que c'est, nous confessons un seul Dieu, mais Père, Fils, Esprit. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans cette ligne, mais je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que les apologistes, justement, contribuent déjà à, disons, à l'élaboration, une première élaboration, disons, de cette doctrine trinitaire. En particulier, les apologistes, je vais simplement lire le premier texte qui se trouve en bas de la page 2. Jésus-Christ seul a été, au sens propre, engendré par Dieu comme Fils, lui qui est son Verbe, son premier-né, sa puissance. Devenu homme par sa volonté, il nous a donné cet enseignement pour le renouveau et la régénération du genre humain. Donc Jésus-Christ n'est pas une créature, mais Jésus-Christ a été engendré par Dieu comme Fils. Jésus-Christ est le Fils engendré, unique engendré de Dieu le Père. Alors, je voudrais terminer rapidement, parce qu'il y a encore quelques minutes, je voudrais terminer en présentant un autre écrit qui appartient à cette littérature apologique, apologétique du IIe siècle. C'est ce qu'on appelle donc l'écrit à Diognète. On ne sait pas quel est son auteur, on pense que c'est un écrit qui date de la fin du IIe siècle, ou du début du IIIe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur de cet écrit, en réponse aux questions qui lui sont posées, rend compte de l'existence des chrétiens, et là encore, en essayant de la justifier, apologia, la défense, la justification, le plaidoyer pour la vie, pour l'existence chrétienne. Et entre autres, un certain nombre de païens reprocher aux chrétiens de pratiquer un mode de vie qui les mettait complètement à part des citoyens normaux, des citoyens ordinaires. Or, l'auteur de cet écrit, adressé à un certain Dionnette, répond à l'objection en disant ceci: les chrétiens ne se différencient des autres hommes ni par un pays, ni par une langue, ni par des vêtements. Ils n'habitent pas des cités qui leur sont propres, n'usent pas d'un dialecte étrange, ne s'adonnent pas à un mode de vie bizarre. Leur savoir n'a pas été inventé par l'imagination anxieuse d'individus agités. Ils ne mettent pas en avant, comme certains, une doctrine humaine. Tout en habitant des cités grecques ou barbares selon le sort de chacun, tout en se conformant aux coutumes locales pour le vêtement, la nourriture et le reste de la vie, ils manifestent la constitution admirable et de la vie de tous, paradoxale de leur cité, de leur république. Au fond, à travers ce texte, l'auteur nous dit: les chrétiens sont bien dans le monde. Ils ne forment pas un groupe à part, ils sont bien dans le monde. Simplement, dans le monde, ils ne sont pas du monde, pour reprendre une parole fameuse de Jésus dans l'évangile de Jean. Je ne demande pas, Père, de les retirer du monde. Mais, voilà, ils ne sont pas du monde. Alors, l'auteur continue avec cette très belle formule: ils résident chacun dans sa patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils participent à tout comme des citoyens et se soumettent à tout comme des étrangers. Toute terre étrangère est leur patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. La beauté de ces textes, hein, c'est magnifique. Il n'y a pas de meilleure illustration de ce que disait Jésus dans sa prière sacerdotale. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais garde-les du mauvais. Voilà. Les chrétiens doivent être pleinement dans le monde, mais comme citoyens d'une autre cité, comme témoins d'une autre patrie. Voilà. Et le texte continue, c'est vraiment admirable, je ne peux pas lire les deux paragraphes qui suivent, mais je vais tout de suite au paragraphe qui est en bas de la page, texte célèbre, à juste titre, pour le dire simplement: ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue à travers tous les membres du corps et les chrétiens à travers les cités du monde. L'âme réside dans le corps, mais elle n'est pas du corps. Les chrétiens résident dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est gardée prisonnière dans le corps qui est visible. On sait bien que les chrétiens sont dans le monde, mais leur piété demeure invisible. La chair déteste l'âme, et alors que celle-ci ne lui cause aucun tort, elle lui fait la guerre, parce qu'elle l'empêche de s'adonner au plaisir. Le monde déteste les chrétiens, alors qu'il ne lui cause aucun tort, parce qu'il résiste au plaisir. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres. Les chrétiens aiment ceux qui les détestent. Hein. Aimez vos ennemis, dans le sermon sur la montagne. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est par elle que le corps tient. Les chrétiens sont détenus dans le monde, comme dans une prison, mais c'est par eux que le monde tient. C'est par eux que le monde tient. Immortelle, l'âme habite dans une tente mortelle. Les chrétiens résident comme des étrangers au milieu des réalités corruptibles, en attendant l'incorruptibilité qu'ils auront dans les cieux. Privés de nourriture et de boisson, l'âme devient meilleure. Maltraités, les chrétiens deviennent de jour en jour plus nombreux. Dieu les a placés à un poste si important qu'ils n'ont pas droit de l'abandonner. Un texte vraiment admirable. On va dire qu'il y avait quand même parfois des persécutions de chrétiens. Dans ce contexte, dire ce que dit l'auteur, ce n'était pas neutre. Alors ce qui est très beau, c'est que, après avoir ainsi décrit la condition des chrétiens qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde, hein, la condition des chrétiens, vous avez vu cette formule au passage, les chrétiens tiennent le monde, soutiennent le monde. Ça peut paraître exorbitant, cette formule. Mais rappelons-nous ce qu'avait dit Jésus dans le sermon sur la montagne: vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc je pense que l'auteur se rappelle ces paroles de Jésus. Les chrétiens soutiennent le monde, vocation par rapport au monde. Et ce qui est très beau, c'est que après avoir ainsi décrit la condition des chrétiens, la condition paradoxale des chrétiens qui sont dans le monde sans être du monde, l'auteur, vers la fin de son écrit, nous dit, ben voilà, je vais vous expliquer quel est le secret de cette condition des chrétiens dans le monde. Le secret, c'est que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Je lis le en haut de la page suivante, la dernière page, c'est vraiment le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses et invisible, qui a lui-même établi chez les êtres humains la vérité, le Verbe Saint et incompréhensible, et qu'il a installé solidement leur cœur. L'a-t-il envoyé, comme on pourrait le supposer à vue humaine, pour la tyrannie, la peur, l'effroi ? Pas du tout, mais avec clémence et douceur. Comme un roi envoie son fils roi, il l'a envoyé. C'est un Dieu qui l'a envoyé. Pour les êtres humains, il l'a envoyé. Dans l'idée de persuader, non d'user de violence, car la violence ne convient pas à Dieu. Il l'a envoyé avec l'idée d'appeler, non pas d'accuser. Il l'a envoyé avec l'idée d'aimer, non pas de juger. Qui, parmi les humains, a su ce que pouvait bien être Dieu avant qu'il ne vienne lui-même? Aucun être humain ne l'a jamais nommé ni fait connaître. C'est lui-même qui s'est manifesté. Il s'est manifesté à travers la foi. C'est à elle seule qu'il a été accordé de voir Dieu. Ce Dieu, maître et auteur de l'univers, qui a fait toutes choses et les a réparties en bon ordre, a été non seulement ami des humains, mais aussi plein de patience. Il a toujours été ainsi. Il l'est et il le sera. Il est bienveillant, bon, sans colère, véridique. Lui seul est bon. Ayant conçu une grande, une ineffable idée, il ne l'a confiée qu'à son enfant. Tant qu'il maintenait dans le mystère et gardait en réserve son sage projet, il semblait ne pas s'inquiéter ni se soucier de nous. Mais lorsqu'il l'a révélé et manifesté par son enfant bien-aimé, Jésus-Christ, ce qu'il avait préparé depuis le commencement, il nous a tout offert à la fois, d'avoir part à ses bienfaits, mais aussi de voir et de connaître ce à quoi nul d'entre nous n'aurait pu s'attendre. Il ne nous a pas détestés, ne nous a pas rejetés, ne s'est pas souvenu de nos fautes, mais il a été patient, il nous a supportés. En sa pitié, il a lui-même pris sur lui nos péchés, il a lui-même livré son propre Fils en rançon pour nous, le saint pour les transgresseurs, l'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes, l'incorruptible pour les corruptibles, l'immortel pour les mortels. Cette condition paradoxale des chrétiens qui sont dans le monde sans être du monde, elle a pour source la bonté de Dieu qui nous a donné son Fils et qui a invité les disciples de son Fils à être témoins de l'Évangile au cœur du monde. Je voulais terminer en évoquant ce texte magnifique de l'Acte de Naître. Je crois que c'est vraiment une des plus belles illustrations de la façon dont ces chrétiens du IIe siècle ont essayé de rendre compte de leur foi dans un monde qui souvent vient leur adresser des objections ou qui parfois même les inquiétait ou les persécutait.
Deux questions peut-être.
C'est une question un peu terminologique, mais vous avez tantôt utilisé le terme d'apologète, oui. Tantôt le terme d'apologiste. Est-ce qu'il y a une différence ou
non.
Est-ce
que... Non, on emploie les deux termes. Aujourd'hui, on dit peut-être plus souvent apologiste hein, que apologète, mais de façon apologète, assez courante aussi, on en rencontre. Bien sûr, il y a des auteurs après le IIe siècle qui feront encore des apologies du christianisme, comme par exemple Origène au IIIe siècle, ou Augustin dans la Cité de Dieu. La Cité de Dieu, c'est une magnifique apologie de la religion chrétienne. Mais c'est vrai qu'on réserve un peu cette expression père apologète ou apologiste à ces auteurs du IIe siècle, hein, spécifiquement, étant donné le moment historique, au fond, qui était le leur. Hein. Ils avaient vraiment à se défendre, alors qu'ils étaient encore très minoritaires dans l'Empire. Et c'est très parlant pour nous, parce que c'est une situation dans laquelle les chrétiens sont très minoritaires aujourd'hui. Donc, retrouver cette littérature, c'est précieux pour vous.
Vous avez parlé de différences du point de vue éthique entre chrétiens et païens. Est-ce qu'il y a eu des discussions, des débats internes sur, par exemple, l'abandon des enfants, je ne sais pas, mais sur d'autres sujets, sur comment se positionner en tant que chrétien par rapport aux païens ?
Les débats entre les chrétiens eux-mêmes ?
Oui, entre eux, pour savoir.
Il y en a eu, par exemple, par rapport au mariage, par rapport à la question du mariage. Il y avait des chrétiens de tendance rigoriste, comme on dit, qui étaient portés plutôt à déprécier le mariage. Voilà. Il y en a d'autres, par contre, comme Clément d'Alexandrie, par exemple, qui ont insisté sur l'importance du mariage, les lumières dans un certain nombre de textes bibliques. Donc il y a eu des débats aussi entre chrétiens, des positions. Mais par rapport, évidemment, à des comportements comme celui que j'évoquais... l'avortement aussi, les pères d'église sont plus unanimes pour dénoncer un certain nombre de manières de se comporter qui leur paraissent vraiment injustifiables au regard de la foi chrétienne. Mais ça, je crois qu'il y ait des débats entre eux sur des points, je dirais, moins. Enfin, plus matière à discussion, disons.
J'ai pas vraiment une question, mais ça m'a frappé en vous entendant parler du traitement différencié de Saint-Justin vis-à-vis d'un côté des Juifs et de l'autre côté des païens. C'est que lui, mais au fond, par rapport aux Juifs, on prend leurs écritures, mais toutes leurs écritures, et on change tout leur sens. Pour les païens, on fait le tri. Et il y a des choses qu'on jette, on dit, mais ça c'est complètement incompatible. Mais ce qu'on garde, on le garde un peu tel quel, en disant que c'est des amorces, c'est des ébauches. Alors j'en tire pas vraiment de conclusion, mais je trouve intéressant de voir quand même ce traitement différencié qui, même dans une perspective un peu citilarde, enfin on voit bien, c'est ce qu'on appelle l'inculturation de Chesosa, mais il y a quand même quelque chose de très spécifique à Israël. On ne traite pas la tradition juive comme on traite la tradition des Grecs.
Ce n'est pas symétrique.
Ouais, c'est pas symétrique. On garde tout et on change tout d'un côté, et de l'autre, on fait le tri. Ouais. Et ce qu'on garde, on garde tel que.
Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que, ça je ne l'ai pas précisé, mais l'Église s'est battue au IIe siècle pour maintenir justement toutes les Écritures, parce qu'il y avait quand même des courants dissidents, enfin, comme Marcion, par exemple, du IIe siècle, qui voulait supprimer l'Ancien Testament.
On aurait ça aurait été plus facile, d'ailleurs.
Bien non.
Ça aurait été plus facile de séparer les Écritures.
Et la grande Église, en effet, a voulu maintenir intégralement toutes les écritures, alors que par rapport aux traditions païennes, on a trié, de fait. Cette asymétrie, dissymétrie, est de fait très importante, parce qu'elle révèle, en effet, comme vous dites, qu'il y a un statut spécifique, singulier, du rapport à Israël, du rapport aux écritures d'Israël. C'est seulement par analogie, finalement, qu'on peut dire que. Il y a certains aspects des écritures païennes qui peuvent être aussi accueillis. Mais ce n'est pas tout, c'est certain. Ouais.
Merci beaucoup, vraiment.
Ça nous en fait. Merci.
On a l'habitude de terminer par des conclus, mais peut-être vous voulez rentrer tout de suite.
Non.
Vous avez encore un peu de. Voilà.